Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Claire au micro, une maman française à la tête d'une tribu de 3 enfants vivant au Laos. Elle nous raconte sa première expatriation en Australie avec son mari et les raisons qui les pousseront à venir s'installer au Laos, pays dans lequel ils vivent depuis maintenant 10 ans, mais aussi la façon dont ces 3 matrescences ont impacté sa vie professionnelle et la façon dont elle a pu trouver sa passion grâce à ses enfants. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Claire!
Salut Cindy!
Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Écoute, comme d'accoutumé maintenant, je vais te demander de te présenter, de nous dire qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille.
Déjà pour me présenter, je m'appelle Claire, j'ai 37 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants et je vis au Laos, en Asie du Sud-Est, depuis maintenant 10 ans.
Waouh! Alors, pour qu'on passe pas pour des bleus, le Laos, c'est à côté de la Thaïlande, c'est ça?
C'est ça. Donc, c'est un pays qui est enclavé, en fait, qui n'a pas d'accès à la mer. Et donc, qui est situé entre la Thaïlande, la Birmanie, le Vietnam, la Chine et le Cambodge.
D'accord. Écoute, je regarderai sur Google Maps et ouais. Je te ferai un retour.
Oui, il est peu connu comme pays. C'est sans doute le pays d'Asie du Sud-Est qui est le moins connu.
Ben c'est vraiment atypique. Tu nous diras un peu plus tard comment t'es arrivée ici. Et donc, à partir de quel moment tu rencontres ton futur conjoint?
Mon mari, je l'ai rencontré en 2004. Je l'ai rencontré à Nancy. J'étais là-bas, je faisais mes études d'éducatrice spécialisée. Et lui, il travaillait déjà en tant qu'informaticien. Et on s'est rencontrés dans le cadre du théâtre d'improvisation.
C'était tous les deux. Trop cool!
Inscrit à ça.
Ouais.
Et donc, pendant nos séances d'improvisation, donc on a appris à se connaître, surtout après, en fait, parce qu'il y avait toujours une opportunité d'aller boire un verre tous ensemble après. Et puis, on a appris à se connaître à ce moment-là. Et on revenait tous les deux d'un grand voyage. Lui revenait tout fraîchement d'Australie avec un très bon ami à lui.
D'accord.
Et moi, je revenais du Canada, où j'étais allée rendre une visite à une très, très bonne amie. En vacances.
À l'opposé.
Oui, c'est vrai, on n'était pas du tout au même endroit. Et on avait chacun un peu ce projet d'aller vivre dans ces pays, en fait. On avait été tellement émerveillés par l'expérience que lui pensait et aurait aimé parler de partir vivre en Australie, moi du Canada. Donc c'était un gros point commun qu'on avait, c'était l'envie de voyage.
C'était la neige versus le soleil, quoi.
Oui, c'est ça.
Mais alors, comment vous êtes mis d'accord et sur quelle destination vous êtes mis d'accord, surtout?
Alors, on s'est mis d'accord sur l'Australie pour plusieurs raisons. Moi, l'idée d'apprendre une langue étrangère, donc apprendre l'anglais que je ne maîtrisais pas, me plaisait énormément. Puis, clairement, le temps était quand même bien meilleur en Australie qu'au Canada.
C'est clair.
Donc, le choix s'est porté sur l'Australie assez rapidement, on va dire.
Mais c'est quand même beaucoup plus loin, non?
Eh bien, écoute, un Paris-Sydney, t'en as bien pour... t'as bien 20 heures de vol, hein, sans compter les escales.
Donc, ça prend donc c'est quand même bien plus loin que le Canada, hein.
Complètement, ouais. Ça, c'est sûr que... On n'a pas à mesurer ça, c'était pas le critère qu'on a mesuré. Ouais. La distance, on s'en est pas préoccupé à l'époque.
Et alors, à quel moment vous décidez de partir en Australie?
Eh bien, en fait, on est parti en vacances, nos premières grandes vacances, je veux dire très lointaines, on va dire outre-Atlantique, où on a dépassé les frontières de l'Europe, ont été justement au Laos, en février 2008.
Mmh. Elle vient de là, la connexion.
Oui, tout à fait. On a des amis, Fabien, mon mari, a des amis très proches qui vivent, et qui vivent toujours d'ailleurs au Laos, et oui. M'a proposé d'aller leur rendre visite. Donc, la première fois qu'il m'a dit « et si on allait au Laos ?», j'ai dit « ouh, c'est sympa, oui, beaucoup, j'aimerais, mais où est-ce » Un peu comme tout le monde, c'est où le Laos? Donc, après avoir identifié, oui, ça semblait, ça donnait beaucoup envie. Donc, nous sommes partis en vacances là-bas pendant un mois et on a été complètement séduits. À la fin du séjour, on était déjà en train de chercher du travail pour revenir très, très vite. Et on est parti encore en février 2008, nous sommes partis en vacances au Laos et nous sommes partis avec notre Working Visa Holiday en février, je me rappelle, c'est le 3 février 2009, donc pile poil un an après.
D'accord.
De là, on arrive en Australie avec chacun un sac à dos et dans une guest house parce qu'il y avait à peu près, enfin voilà, on était en mode backpack. On a trouvé assez rapidement un logement, c'était assez simple. Et j'ai trouvé du travail 2 mois après, en avril, dans une petite école maternelle française, franco-australienne.
Oh. Okay.
Toute petite école avec un effectif très réduit. J'avais 5 enfants donc, par classe, c'était super agréable. Fabien, lui, a un petit peu accumulé effectivement c'était la crise à l'époque, en 2008-2009, là, donc ça lui a pris plus de temps. Il a accumulé des petits jobs, mais il a fini par trouver un boulot très, très intéressant, mais ça lui a pris plusieurs mois.
Mais ça, c'est sous le holiday visa ou c'est sous, du coup, vous avez dû faire un autre visa?
C'était sur le holiday visa, en sachant qu'on avait l'opportunité de garder le même emploi pendant 6 mois.
Je croyais que c'était vraiment un visa de main d'œuvre pas chère, où c'est les petits étudiants qui cherchent des petits boulots pendant l'été et qui se trouvent à travailler dans les fermes ou sur les plages, quoi. C'est pour ça que je te disais ça.
Oui, parce que c'est vrai que c'est souvent ça que les personnes font. Nous, on était à Melbourne et on était plutôt en ville, donc on cherchait des boulots qui sont en adéquation avec nos compétences.
Ouais.
Donc, tout en sachant qu'on pouvait rester que 6 mois maximum, mais en fait, on a trouvé les moyens de continuer. Donc moi, j'ai eu 2 emplois différents. Le premier, j'ai réussi à le garder pendant 1 an, ce travail de
c'est bien,
maternelle.
Ouais.
Et puis Fabien aussi a réussi à garder quand même qu'à la fin en fait cet emploi.
D'accord. Vous parliez anglais avant de vous embarquer en Australie?
Bah écoute, c'était un anglais scolaire, hein. Donc
oui.
On a tous les deux appris l'anglais à l'école.
Moi, l'accent.
Ah ouais, mais c'était même pas une histoire d'accent, c'était vraiment une histoire d'être capable de faire des phrases et puis surtout comprendre. C'était la grosse problématique,
oui.
C'était pouvoir comprendre les gens. Moi, je m'étais mise à la méthode à 6000 en septembre pour pouvoir partir donc en février. Donc pendant 5 mois, j'étais très assidue.
My terror is rich.
Ah oui,
my
c'est ça.
My terror is not rich.
Exactement ça, avec mes petites phrases. Donc c'était vraiment pas. Moi, clairement, je suis arrivée en Australie, je comprenais pas ce qu'on me disait, j'arrivais pas à exprimer mes pensées, à dire ce que je voulais, donc c'était très frustrant. Et
oui.
Ça m'a encore plus donné envie d'apprendre. Donc, j'ai appris très, très vite à parler anglais. Et heureusement, on était en colocation. On a eu la chance d'être entourés
oui,
d'anglophones.
Cool.
Et ça, ça a accéléré considérablement.
Oui, vous n'êtes pas resté entre petits Français, quoi.
Ah ben non, ce n'était pas possible. Si on voulait se faire comprendre et avancer, il fallait absolument être en immersion. On s'est fait des amis français, bien évidemment. Mais le fait de vivre comme ça avec des anglophones, en 3 mois, je dirais, j'étais à l'aise. C'était bon pour
ouais.
Moi, dans la
c'est
vie
cool.
De tous les jours, je me sentais bien. Quoi.
Et alors, oui, qu'est-ce qui arrive à la suite de ça? Parce que vous avez une date d'expiration, qu'est-ce que vous vous dites, qu'est-ce qui est next?
Alors, en fait, on a eu l'opportunité, notamment Fabien, d'avoir un visa de travail. On lui a fait la proposition qu'on
okay.
a pris en compte, mais qu'on a dû, on a décidé de refuser parce que la distance, ce dont on parlait tout à l'heure, était
ouais.
trop grande.
Prenant.
En fait.
Ouais.
On s'est rendu compte que ça m'était vraiment. Tout devenait en fait compliqué. L'idée de devoir rentrer, on ne pouvait pas rentrer. Par exemple, il arrivait quoi que ce soit, on savait que ça prendrait beaucoup de temps pour rentrer. Et s'il arrivait
ouais.
quoi que ce soit, moi, je trouvais ça difficile à vivre. Donc, on a pris la.
Donc, vous avez décliné.
Voilà.
Ouais.
On a décliné l'offre. Et donc là, on a commencé à se projeter sur un retour en France. En
okay.
imaginant où est-ce qu'on pourrait aller vivre en France. Mais l'idée de revenir en France en plein mois de janvier, en plein hiver, ça nous a un peu glacé. Et donc du coup, étant donné qu'on avait on était déjà allé au Laos. On s'est dit, tiens,
oui.
pourquoi pas se faire comme les Australiens font beaucoup, aller en Asie du Sud-Est, voyager, visiter. Et tiens, si on retournait pas là-bas pendant, disons, 6 mois, comme ça, on pourrait faire
on
une transition en 10 heures.
Donc, du coup, vous dites, allons au Laos pendant 6 mois et au final, tu te retrouves à vivre là-bas pendant 10 ans, c'est ça?
Bah oui, parce que donc, à la fin de notre séjour en Australie, Fabien me demande en mariage, me demande
oh.
si je veux l'épouser.
Oh, il fait ça bien. Parfait. C'est une belle manière de clôturer un chapitre de sa vie, ça.
C'était bien sympa, effectivement. J'étais ravie. Parce que c'était une évidence, après ce temps, après l'expérience qu'on venait de passer, comme mon audience s'était renforcée à l'étranger, c'était un peu une évidence quelque part. Et puis, du coup, à la fin de, bah, pendant ces 6 mois, bah, forcément, on fait des rencontres et puis et on m'a fait une proposition pour travailler en fait auprès d'un enfant handicapé, infirme moteur cérébral, scolarisé à l'école française. Et donc, ben oui, quoi. Nous, on se sentait super bien au Laos. On s'est dit, ben, pourquoi pas, allons-y. Fabien avait continué à avoir ses clients, à avoir des opportunités professionnelles de l'Australie. Il continue à travailler avec eux.
Trop bien. Mais quelle langue ils parlent au Laos? Je me sens bête, mais c'est une
Oh
question qui me
non,
paraît inévitable.
oh oui, il n'y a pas de question bête, non? C'est le laotien qui est une langue, je peux pas dire qu'elle est similaire au thaïlandais, mais elle est similaire au thaïlandais Isan, la région Isan qui est frontalière avec le Laos. Finalement, c'était l'ancien royaume du Laos.
Donc vous avez dû vous mettre à la langue locale?
Il n'y avait pas le choix parce qu'ici, on ne parle que le laotien.
Sympa après l'anglais, on
Oui,
rattaque.
c'est ça.
Alors c'est compliqué à apprendre ou ça va?
Eh ben, en fait, c'est une langue simple qui n'a pas de conjugaison, par exemple. La formation des phrases est ultra simple. Ce qui rend le laotien très compliqué, c'est qu'il y a des tons, c'est la tonalité.
Donc j'imagine que vous vous installez là-bas.
Oui.
Enfin, peut-être que vous rentrez en France, vous vous mariez, mais vous vous installez sur le long terme là-bas.
Oui, c'est
À
ça.
quel moment vous décidez d'étendre la famille?
Eh ben, écoute, ça s'est fait. C'était un peu l'idée. Moi, j'ai dit que, enfin, dans mon esprit, je me suis dit, je ne vais pas mettre en route un bébé alors qu'on est en train de préparer un mariage.
Oui.
J'ai dit, on va attendre qu'on soit mariés, puis on mettra en route un bébé. Enfin, on était d'accord sur
Oui.
le projet. Donc voilà, nous voici rentrés effectivement à la fin des 6 mois du Laos. Nous voilà rentrés en France. On se marie en France et on repart au Laos pour commencer le travail et commencer cette vie là-bas, un peu installée. On met en route ce projet bébé. Voilà.
Oui.
On le met en route, on le met en route. Il est en route, mais il ne vient pas.
Oh.
Il prend du temps, ce bébé, à arriver. Et au bout d'un an et demi, je me rends compte que rien ne se passe. Donc,
Oui.
je fais un peu ce que tout le monde peut faire. Je regarde un peu sur Google, chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je mets un peu tous les symptômes que je rencontre, un peu les. Voilà ce que je vis et très rapidement, alors des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Là pour le coup, ça m'a donné les indicateurs tout de suite. Je me rendu compte qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais atteinte d'endométriose.
Ah, zut, ouais.
Donc voilà, mais j'ai eu beaucoup de chance, c'est d'être au Laos à ce moment-là parce que je suis allée voir mon médecin, qui était une femme
Ouais.
superbe, et à qui j'ai exposé en fait la problématique. Donc elle m'a tout de suite dit, bah oui, effectivement, je pense que c'est ça. Elle m'a
Ouais.
envoyé voir un médecin spécialisé à Bangkok. Et tout a été très vite, en fait. On a confirmé mon endométriose. Et puis, bah, du coup, les choses ont été résolues, en fait. Et je suis
Trop bien.
tombée enceinte très peu de temps après. Donc,
OK.
mon bébé s'est installé. Mon premier fils, Gabriel, donc, s'est installé en octobre 2013.
D'accord. Comment ça se passe alors le suivi de la grossesse au Laos?
Eh ben, ici, le grand manque, en fait, au Laos, c'est le côté santé. Donc, quand on a une première grossesse, on est un petit peu anxieux. Donc, je me suis rendue. Moi, j'ai fait d'une part le suivi quand même classique, que je le faisais quand même ici, parce qu'il y a un cabinet médical français. Et puis, je me rendais très régulièrement, sûrement trop régulièrement, en Thaïlande, puisqu'on est vraiment à la frontière de la Thaïlande. On se rendait régulièrement là-bas pour faire des suivis, notamment les échographies. Donc, très simplement, quand il y avait besoin, quand le temps arrivait d'une nouvelle écho, ben, on se rendait là-bas. Et puis, voilà. Donc, c'était assez simple, finalement, puisque, bon, en Thaïlande et à l'hôpital où je me rendais, ils parlaient anglais. Donc, on avait vraiment cette langue.
Oh, ça va,
Qui
ouais.
nous permettait d'échanger et de comprendre ce qui se passait. au fur et à mesure de mes grossesses, le suivi, j'étais de plus en plus cool. Donc, au début, ben, pour mon premier, j'ai dû y aller tous les mois. Après, pour mon second, j'ai dû y aller tous les 3 mois. Et puis, pour ma dernière, je crois, je suis même pas sûre. Je crois que si j'y suis allée une fois, mais c'est parce qu'on était en vacances à Bangkok. Et je me suis dit, tiens, pour l'occasion, pour aller.
Oh non, c'est drôle.
Ouais.
Mais donc, du coup, attends, c'est à tes frais, du coup, l'assurance santé là-bas?
Eh ben écoute, on avait souscrit à une assurance santé internationale.
D'accord.
Donc du coup, tout était pris en charge. Tout était pris en charge, que ce soit au Laos ou en Thaïlande, même tout ce qui a été de l'endométriose, tout a été pris en charge, même les voyages.
Ça, c'est très bien. Ah ouais. Trop cool. Ouais. Et donc tes accouchements, tu les as fait sur place?
Non, on a pris la décision de rentrer à chaque fois en France.
Oh la vache, ouais. Ça doit faire lourd quand même, parce qu'attends, Laos, Nancy, on en est à combien là de transport?
Alors, nous, quand on rentre, alors à chaque fois, on a eu beaucoup de chance puisque mes grossesses sont tombées sur l'été. Donc, dans tous les cas, c'était les périodes où on rentre, parce que tous les ans, on rentre 2 mois en France pendant l'été.
D'accord.
On peut se le permettre, donc du coup, on le fait. Et à chaque fois, ça a été le cas. C'était quand même un beau timing. Et ben, la première fois, je suis rentrée à 6 mois et demi de grossesse. La deuxième fois, je suis rentrée à 7 mois et quelques. Et puis, pour Axel, je suis rentrée à 8 mois de grossesse, la dernière minute. Plus j'avançais et plus j'étais relax.
Mais alors, pourquoi cette volonté de rentrer en France? Enfin, au-delà du fait d'être entourée de sa famille, c'est le système médical n'est pas très développé là-bas, c'est ça? Tu avais peur qu'il y ait eu des complications?
Alors, accoucher au Laos, pour moi, ce n'était pas concevable, étant donné le système de santé. Ça me mettait trop en insécurité. En Thaïlande, au contraire, c'était surmédicalisé. Le taux de césarienne est très élevé. Le système médical thaïlandais privé est très efficace. Hein, c'est super high-tech. Toutes les manipulations très médicalisées sont maîtrisées, mais c'est toujours le problème quand toutes les choses sont surmédicalisées. Après, on laisse plus assez de place pour l'accouchement physiologique. Et moi, je trouvais, j'ai pensé, et j'ai eu, je pense, dans mon cas raison, c'est en France de trouver un peu l'entre-deux, en fait, réussir à trouver davantage ma place, être entendue dans mon projet d'accouchement. Donc, je savais qu'il y avait une très grande médicalisation de l'accouchement en France, mais je maîtrisais suffisamment la langue pour pouvoir m'affirmer et trouver en fait un juste milieu dans mes accouchements.
Mais alors, quand tu rentres au Laos, comment tu t'organises? Parce que j'imagine que ton mari, bah, il doit bosser vu qu'il est quand même, s'il est en profession libérale, pas de bras, pas de chocolat, donc pas de travail, pas de rémunération. Comment tu arrives à gérer à chaque fois quand tu rentres avec un nouveau bambin dans tes bras?
Bah, à chaque fois, c'est vrai que ça a été très, très, très différent. Si je devais recommencer l'histoire et reparler de mon premier avec Gabriel, bon, on a eu, encore une fois, hein, j'ai eu beaucoup de chance. On a beaucoup de chance parce que mon mari, il est très présent. Il peut vraiment prendre le temps avec nous. Ça a été très, très étrange. Enfin, voilà, mon premier fils est né, j'ai été extrêmement déconcertée par ce bébé. J'ai réalisé que je manquais d'intuition et d'instinct. Je voyais bien qu'il manquait quelque chose. Je voyais pas, il ne dormait pas, il était dans ce petit lit et il voulait pas dormir. Je comprenais pas ce qui arrivait. C'était, un peu hopeless, quoi. J'étais en mode, je regardais, encore une fois, j'ai dû faire googler mon ami, mais là, il l'a pas été parce que, au problème.
Il n'y a pas qu'un manuel, c'est vraiment dommage, hein.
C'est fou, hein. J'ai regardé, je marquais comment ça se fait, je ne comprenais pas ce but. Qu'est-ce qui m'arrivait, qu'est-ce qui arrivait, pourquoi il ne dormait pas, et les réponses que je trouvais sur Internet ne me convenaient pas et ne fonctionnaient pas.
Ouais.
Donc, j'ai dû, enfin, il y a eu un vrai cheminement qui s'est fait au fur et à mesure du temps. Et puis surtout, moi, entre mes idées d'occidentale et puis de française, et puis ce que j'observais ici au Laos, je pense qu'il y avait un monde, plus qu'un monde, il y avait, je ne sais pas, un univers. parce qu'ici, les Laotiens pratiquent ce qu'on appelle le maternage proximal. Ils sont très proches de leur bébé dans le sens où ils les portent énormément, ils les accompagnent dans le sommeil. Le portage fait partie de la vie. L'allaitement est beaucoup plus présent. Donc, il y avait un tas d'indices comme ça qui mettaient la puce à l'oreille. Moi, j'avais un peu mis cette idée de dressage du sommeil et je voyais comment ils se... comment ils prenaient, en fait, comment ils accueillaient ça. Et c'était, je me suis rapprochée, en fait, de cette façon de faire. Et malgré ces savoirs, en fait, malgré cette formation initiale d'éducatrice spécialisée, je me suis retrouvée sans réponse face à ce bébé. Et ça a été la porte d'entrée. C'est là que j'ai découvert un peu ce qu'on appelle la parentalité positive et bienveillante. Et c'est par ce biais-là que je suis rentrée. Et ça a été le début d'une belle histoire parce que j'ai eu une vraie passion qui est née. J'ai découvert tout ça, une autre façon d'accompagner les enfants. J'étais devenue maman. J'étais en train d'apprendre un nouveau métier d'enseignante. Et je découvrais à la fois tout ce qui était l'éducation respectueuse, l'accompagnement respectueux. Donc ça faisait beaucoup de choses en même temps. Il y a eu un tas de choses qui se sont mises en place à la même époque.
J'imagine que tu étais aussi bercée par une autre culture qui est loin d'être celle qu'on connaît en France. Et...
Moi, j'observais, j'étais dans le même mode de fonctionnement français. Je travaillais à l'époque à l'école française de Vientiane, donc il y a un fonctionnement qui est exactement le même qu'en France. Et moi, en parallèle, j'avais donc ce master de FLE et je découvrais des choses en termes d'apprentissage et de fonctionnement des enfants qui étaient à l'opposé de ce que je vivais, parce que je comprenais des choses et pourtant je ne vivais pas la même chose au quotidien. Et c'était très pénible, parce que je comprenais foncièrement beaucoup mieux les enfants, le fonctionnement de leur cerveau, comment ils apprenaient. Et je comprenais que le chemin que j'étais en train de prendre, en tout cas dans ma pratique professionnelle à l'école française, ne me convenait absolument pas.
Et ça a duré combien de temps alors, cet écart entre toi, la façon dont tu percevais les choses et la façon dont tu devais travailler?
Ça a duré un petit moment parce que j'ai commencé à bien cerner les choses, à vraiment bien comprendre tout ça, je dirais entre 2012 et 2013. J'ai arrêté de travailler à l'école en 2017.
Ah ouais?
Ouais. Et en parallèle, moi, j'avais essayé de monter une petite école démocratique à Vientiane, justement parce que j'avais ce besoin d'être en adéquation entre ce que je pensais et ce que je voulais faire. Donc, mon deuxième fils, Johan, avait 4 mois à l'époque. Quand j'ai commencé à offrir des sessions auprès d'enfants, et je me sentais bien dans ces moments-là parce que je pratiquais, j'offrais des choses qui étaient en adéquation avec ce que je pensais être bon pour les enfants. Mais à côté de ça, je travaillais quand même un petit peu à l'école française, et donc c'était très particulier en fait. Il y avait vraiment, j'ai eu l'opportunité après à l'issue de cette première année où je travaillais à l'école française et j'avais essayé de monter cette petite école française. Pour la première fois, on me proposait un contrat en bonne et due forme à l'école française. Et en fait, le côté financier et puis aussi un petit peu mon ego ont pris le dessus. Donc, et vu que je ne voyais pas le nombre d'inscriptions dans mon école augmenter, j'ai pris la décision de prendre ce contrat à l'école française. Malgré ce que je savais, c'était un peu fou d'ailleurs quand j'ai repensé, je me suis dit c'est fou quand même. Mais bon, il y avait aussi le côté financier qui prenait un peu le pas.
Ouais, mais alors comment tu te sentais toi dans ton cerveau à te dire pour des raisons pécuniaires, je suis obligée d'accepter une façon de penser qui n'est pas la mienne quoi?
Eh ben, je le consciente. C'est après avec le recul que je comprends comment je me sentais à l'époque. Là, je comprenais pas bien. Il y avait des priorités, donc j'ai répondu à ces priorités là.
Bien sûr.
Et puis, mais ça a été une année terrible. J'avais 2 postes différents. J'étais enseignante de français langue étrangère et j'avais aussi un poste un peu administratif qui était celui de déceler les enfants qui étaient à besoins éducatifs particuliers.
J'imagine que tu étais payée un travail pour 2.
C'est ça, exactement. Donc, je me suis retrouvée avec une charge de travail impressionnante. J'avais finalement peu d'heures. Je me suis retrouvée à temps plein. J'avais pas de... Bon, le problème que beaucoup de gens rencontrent, j'avais aucune reconnaissance par rapport à tout ce que je faisais et que j'essayais de faire mon mieux.
Alors, comment tu t'en sors de là?
Eh ben, je m'en suis sortie parce que la vie est bien faite et que justement avec ces problèmes en fait au sein de l'institution, j'ai osé dire en public les problèmes que j'ai rencontrés et finalement ben, mon contrat a été arrêté. Voilà, on a décidé de stopper mon poste, qui était une catastrophe sur le moment pour moi. Mon ego en a pris un coup terrible, mais qui a été un vrai soulagement finalement puisque j'avais déjà en tête à l'époque de me former à l'accompagnement respectueux des enfants. Et donc, ben, la vie m'a poussée, enfin, la vie m'a donné l'opportunité. J'ai trouvé un autre travail dans une école internationale, en fait, avec des heures. C'était bien, j'avais un très bon équilibre, quelques heures d'enseignement et surtout, j'ai commencé à me former à fond à l'accompagnement respectueux des enfants.
Et quand est-ce que Axel, du coup, arrive dans ta vie?
Et bien justement, quand je me suis lancée dans la formation et j'ai commencé ce nouveau travail en septembre, je suis tombée enceinte d'Axel en décembre.
C'est marrant parce que donc du coup, si je reprends ta lignée, donc quand Gabriel est là, tu te dis, bon, il y a ce que je connais manifestement ne fonctionne pas. Donc révélation, chapitre 1.
C'est
Chapitre
ça.
2, Johan, c'est bon, j'ai des connaissances, je vais monter ma petite école. Et c'est marrant, donc chapitre 3, Axel, bah, je monte mon truc et puis allez tous vous faire voir, quoi. C'est
Bon,
génial!
ouais, ça a été le chemin jusqu'à trouver réellement ce qui me convenait le plus et dans quoi je me sentais le plus confortable. Et clairement, là, je suis alignée, quoi. Je suis vraiment dans ce que j'ai toujours recherché, le type de travail qui me convient parfaitement.
Oui, alors est-ce que tu peux nous définir rapidement ce que tu fais?
Alors, je suis donc, comme je le dis, accompagnante en parentalité. Donc, ça s'adresse à tous les parents, mais en général, c'est vrai que j'ai développé beaucoup de connaissances pour tout ce qui sont pour les familles, notamment expatriées, binationales en général, multilingues. C'est des profils de parents que je rencontre beaucoup ici à Vientiane et puis en ligne. Des parents qui rencontrent des difficultés, qui ont des questionnements, qui se sentent un peu bloqués dans leur relation avec leurs enfants et qui aimeraient avoir des réponses en fait à leurs questions. Donc en premier lieu, j'écoute énormément, j'écoute beaucoup, c'est une grande partie de mon travail. J'assure aux parents qui se sentent écoutés parce que c'est quelque chose dont on manque énormément tous de nos jours d'écoute.
C'est vrai.
Et puis ensuite, j'essaye à travers, grâce à mes connaissances, j'essaie de trouver les mots qui résonnent chez les parents pour qu'ils comprennent mieux leurs enfants, pour qu'ils arrivent à se mettre à leur place.
D'accord, c'est génial, c'est absolument génial.
Ben, j'en suis ravie, ça c'est sûr.
Et alors, donc, du coup, les enfants aujourd'hui, ils ont quel âge?
Alors, Gabriel a 6 ans, Johan a 4 ans et Axel a 1 an.
Et donc, alors du coup, quelle langue vous avez établie? J'imagine que vous parlez français à la maison, mais comment ça se passe alors pour vous sur place?
Oui, alors effectivement, à la maison, nous parlons français, mais nous parlons aussi là-haut, puisque comme j'ai dit, donc maintenant, actuellement, donc j'ai une nounou qui est à la maison et qui est arrivée dans notre vie quand Joanne, mon second, avait 4 mois. Et
Oui.
c'est véritablement avec elle que j'ai développé mon là-haut. Donc, quand on est à la maison, ben, ils parlent français avec moi, avec leur papa, et avec Toy, ils parlent en laotien. Elles ne parlent aucune autre langue et à l'école, ils apprennent. Ben, c'est une école anglophone, donc l'anglais est
Oui,
entré dans
l'anglais.
leur vie en même temps que l'école.
Oh la vache. Donc trois langues.
C'est ça,
Et alors
exactement.
attends, donc du coup, on va quand même l'annoncer parce que je crois que vous avez des projets pour
Oui,
bientôt
effectivement.
d'expatriation dans un autre pays.
Oui, ça y est, après 10 ans pile poil, on aura fait janvier 2011, janvier 2021, où nous allons quitter le Laos.
Alors où est-ce que vous allez?
Donc on va se rendre en Espagne, en Andalousie.
Oh, la vache. Alors, comment... Donc on passe du français, anglais et laotien à espagnol. Et encore ça va, andalouse. Donc c'est quoi? C'est du castellano, c'est ça?
Ouais, oui, ce sera, c'est ça, c'est ça, question, ouais, c'est ça. Donc, du coup, on va conserver deux langues sur trois qui sont le français et l'anglais, puisque les enfants vont continuer leur instruction. On va rester cohérent à ce niveau-là. La langue de scolarisation va rester l'anglais. On va juste switcher du lao à l'espagnol. Donc là, les enfants ont commencé à faire des petites séances en espagnol.
C'est cool. Ouais, il est préparé quand même.
Il y a une super plateforme qui s'appelle Divaling. Et en fait, c'est super bien fait. C'est des coachs et les enfants, c'est des sessions qui vont de 15 minutes à 45 minutes au choix. Okay. Et avec leur coach, ils vont jouer en fait en ligne avec le coach. Ils vont chanter des chansons, ils vont faire des petites activités. C'est très actif. Et les enfants adorent. Et en général, donc, j'organise deux séances par semaine pour les enfants. Ça dure 25 minutes.
C'est trop bien.
C'est super. Enfin, franchement, je recommande à tous, si vous avez des langues que vous aimeriez, parce qu'il faut toujours allier plaisir et apprentissage pour que ce soit le plus efficace possible. Et là, je trouve que c'est vraiment parfait.
Non, mais on ne va pas le mettre qu'aux enfants. On va le mettre aussi aux époux.
Et c'est vrai qu'ils se sont focalisés un peu sur les enfants. Mais c'est vrai qu'ils proposent aussi du coaching, enfin, je veux dire l'instruction des langues aux adultes aussi, c'est vrai.
C'est génial. Ah oui, alors attends, donc on parle des enfants, mais vous le pratiquez, le castellano ?
Eh bien non, moi je ne parle absolument pas. Enfin, je ne parlais pas du tout espagnol il y a un mois. Et bon, moi j'adore les langues, hein. C'est la preuve, j'ai été professeure de français langue étrangère, je suis linguiste hein, quand même, parce que j'ai obtenu un master en ingénierie des langues, et je travaille d'ailleurs là-dessus dans mes accompagnements. Ça peut être aussi des choses sur lesquelles on travaille, sur les blocages, pourquoi les enfants certaines fois ne veulent pas pratiquer certaines langues, pourquoi ils ne parlent pas la langue du papa ou de la maman, etc. Donc je suis passionnée de langues. Et du coup, moi, l'opportunité d'en apprendre une nouvelle, je suis juste super excitée. Donc, j'ai commencé à apprendre l'espagnol toute seule, d'une part, avec ma petite méthode à 6000 pour reprendre
ce que j'avais fait,
ce que j'aime bien. Je trouve ça sympa pour travailler en autonomie. Et puis, il y a un super prof sur une plateforme qui s'appelle iTalki et il vit à Vancouver.
Comment vous appréhendez du coup votre retour en Europe ?
Alors, c'est un mélange de tellement de choses différentes. Bon, notre décision de rentrer en Europe, elle nous appartient. Nous, on est complètement libres, on a cette énorme chance. C'est de pouvoir vivre où on le souhaite. Fabien, mon mari, il a développé son activité il y a 3 ou 4 ans. On a compris qu'il était temps pour nous. Enfin, on avait ce projet de se rapprocher de la France parce qu'on a envie de vivre davantage de choses avec nos familles. On a envie que nos enfants connaissent leurs grands-parents mieux. On a envie qu'ils soient avec leurs cousins et leurs cousines. Mm-hmm. Donc, l'idée de revenir en Europe est vite apparue. C'était il y a 4-5 ans. Après, c'était... certes, où, mais surtout pouvoir organiser notre travail de façon à pouvoir être complètement autonome.
D'accord. Mais alors, pourquoi l'Espagne ? Parce que si tu me dis que tu habitais à Nancy, c'est pas la porte à côté quand même.
Non, et en plus, bon, on habitait à Nancy, mais on est originaire tous les deux de région, c'est pas Nancy. Moi, je suis de Champagne-Ardenne et mon mari est des Vosges.
D'accord.
Donc, on est autour de Nancy.
On se rapproche un petit peu, mais pas trop.
Ouais, c'était le point entre les deux. En fait, on s'est rencontrés entre les deux. Mais l'Espagne, en fait, l'idée, c'était de revenir en Europe, mais de ne pas vivre pas vivre une congélation immédiate. Je pense qu'on est complètement tropicalisé. Je pense que là, vivre dans des contrées où il fait trop froid, je crois que ce serait trop difficile pour nous. Et puis, on adore vivre à l'étranger. C'est un grand plaisir pour nous au quotidien de pratiquer une langue étrangère, de découvrir une culture différente, d'avoir des pratiques. On trouve ça super excitant et donc du coup on a envie de continuer ça. Et en réfléchissant, il y a eu plusieurs destinations qui sont sorties. Il y a eu la Grèce, il y a eu le Portugal.
Ouais, je pensais à ça, Malte.
Oui, on a pensé
à la Méditerranée, quoi.
Oui, c'est ça. Et puis, l'Afrique du Nord n'a jamais été évoquée. Remettre une mer entre nous et notre famille, il fallait que ce soit praticable par la terre quelque part. Tu vois, je crois qu'il y avait une vraie proximité à ce niveau-là.
Donc, on restait en Méditerranée, mais on n'allait pas en Afrique.
Ouais, il y avait une volonté d'Europe. Ouais, je crois d'Europe.
Ok.
Et puis, ce qui nous a semblé, on est allé visiter le Portugal, hein. On y est allé l'été dernier quand j'étais enceinte d'Axel et qu'on est rentré tout de suite après être rentré du Laos. On est allé au Portugal avec mon mari, les enfants sont restés avec mes parents pendant une petite semaine. Et puis, on est visité le Portugal. Et en fait, non, on s'est rendu compte que c'était pas là qu'on voulait vivre. Et en y réfléchissant, et donc avec nos expériences, moi je suis déjà allée deux fois en Andalousie, mon mari connaît l'Espagne, et ben, c'est devenu un peu clair que c'était là qu'on souhaitait aller vivre en fait. Et puis surtout, l'activité de mon mari s'est développée parce qu'il y avait aussi une histoire de pouvoir d'achat, de pouvoir vivre convenablement. Donc on a regardé aussi au niveau du niveau de vie, le Portugal nous semblait le plus raisonnable, et puis nos activités se sont développées. Donc là aussi, on s'est dit, ben, on peut aller dans un pays où c'est un peu plus cher que le Portugal, notamment l'Espagne. Donc on s'est permis en fait, de penser à l'Espagne et on a validé. On a validé l'Espagne comme ça.
C'est génial. Bah, écoute, il faudra que tu écoutes l'épisode de Virginie qui, elle, habite en Andalousie et qui a monté sa boîte là-bas.
Ah ouais.
Elle a une agence de voyage et son mari a repris l'hôtel du village. Et elle a une petite fille surtout là-bas. Donc, elle pourra te briefer si tu as envie de faire un baby number four.
Je crois que là, ça y est. La famille est au complet.
C'est vrai.
Oui. Depuis que Axel est né, on est là-dessus. On a eu forcément, on en a parlé, on a évoqué l'idée d'un quatrième enfant. Mais plus le temps passe et plus on se sent au complet.
Oui, d'accord. Mais c'est génial comme projet tout ça.
Ouais. Surtout qu'on a choisi en fait, ce qui nous a permis de choisir aussi notre destination, parce que quand tu es trop libre finalement, quand tu as trop le choix, tu te perds. Et il a fallu qu'on cherche des critères un peu comme ça pour nous. Et les critères indispensables, c'était l'école des enfants. Qu'est-ce qui pour moi est le plus important que tout, bon, au-delà d'un endroit qui nous plaise, hein, bien sûr, c'était trouver une école qui soit en adéquation avec nos valeurs. Et c'est ce qu'on a trouvé en Andalousie. Donc, on a trouvé une ou plusieurs écoles qui sont dans notre philosophie de vie. Et du coup, on s'est dit, ben voilà, on va vivre autour de ça. Et c'était une véritable chance parce qu'on a découvert un lieu assez extraordinaire qui s'appelle la Herradura en Andalousie, où il y a une grande communauté de ce qu'on appelle de world schoolers, donc des gens qui vivent là toute l'année ou bien sont là de passage, qui en général pratiquent l'instruction en famille, qui voyagent énormément. C'est souvent des digital nomades, un peu comme nous. Donc on est très 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 impatients de découvrir tout ça. Et donc du coup, dans ce lieu à La Herradura, il y a plusieurs écoles qui existent ou qui sont en train de se construire. Donc, on va faire partie des projets de construction des écoles. Donc, là aussi, c'est super, super excitant parce que
je suis
en train de me faire la main en ce moment. C'est vrai, moi, je suis en train de construire. Là, je vais actuellement avec l'école de mes enfants. Je vais offrir un workshop pour les enseignants, en fait, pour répondre à leurs questionnements du type comment faire quand un enfant traverse des émotions très fortes, de grande colère, qu'il ne veut pas écouter. Donc, je vais proposer ça. Je vais proposer un accompagnement, enfin du support, en fait, des guides, de l'aide pour les parents aussi d'enfants. Et puis, donc, quelque part, je vais commencer à mettre ça ici en place et je vais pouvoir continuer parce qu'on sera aussi dans la construction de quelque chose d'assez neuf à la Herradura. Donc, c'est très, très, très excitant l'idée de déménager.
C'est plein de beaux projets qui vous attendent là-bas. C'est trop cool.
Oui, plein de projets actuellement. Je suis beaucoup dans l'effervescence totale en ce moment avec ce que je suis en train de faire entre les accompagnements individuels, mais avec l'école de mes enfants aussi. C'est super. Et puis, de savoir que je vais pouvoir continuer là-bas, ça va être juste parfait, quoi. Enfin, vraiment, j'ai des étoiles dans les yeux et dans la tête.
Et alors, du coup, est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des parents qui, comme vous, souhaitent se lancer à l'international dans des pays un peu exotiques tels que le Laos, par exemple?
Alors, des conseils, moi, je trouve que c'est très simple, en fait, en matière de démarche. Pour vivre ici, c'est la vie ici, enfin, la vie dans un pays exotique tel que le Laos, parce que je peux difficilement parler d'autre chose, vu que j'ai une vie au Laos dans un pays exotique. la vie ici est plus simple. Nous, on le vit très simplement. Après, ça reste des choses onéreuses. Il faut pouvoir, y a des spots importants qu'il faut pouvoir financer, notamment celui de la santé et de la scolarité, qui sont des spots qui sont très chers. Après, effectivement, oui. La vie sur place, elle ne l'est pas. Manger n'est pas cher, se loger n'est pas cher. Si vraiment c'est quelque chose que les personnes ont profondément envie, je pense qu'il faut se lancer parce que c'est totalement faisable. Si on se donne les moyens de le faire, c'est une expérience unique et hyper, hyper enrichissante. Le Laos, pour les enfants, c'est juste du bonheur. Les Laotiens sont adorables. Ce sont des gens très patients, très souriants, qui adorent les enfants.
Et en termes de climat, on en est à quoi ? On est dans un climat très humide et chaud ?
Oui, c'est un climat très humide et chaud. Là, on est à la fin de la saison des pluies. Alors, ce n'est pas une pluie constante pendant plusieurs mois. Ça veut dire qu'il va pleuvoir très régulièrement, que le taux d'humidité est assez élevé, effectivement. Donc ça, c'est la saison entre, on va dire, mai et octobre. C'est comme ça. Il pleut pas mal. Donc, très humide. Après, on va rentrer dans la saison sèche et fraîche. Alors, ça fait rire, fraîche, parce que, je veux dire, on va tourner autour de 25-30 degrés et c'est juste l'idéal, quoi.
Oh la vache.
C'est pas trop chaud. Et pourtant, la nuit, les températures peuvent descendre. Hein. La nuit, les températures peuvent descendre autour de 9-10 degrés, par exemple.
Ah oui, quand même. La vache.
Ouais, on n'a pas de chauffage et puis souvent les fenêtres, t'as pas vraiment de protection. Du coup, soit tu as une grosse couette, on est super content de mettre nos couettes pendant cette période-là. On s'habille un peu, tu vois, on approche de Noël, ça fait ambiance un peu. Mais tu peux avoir rapidement des belles températures la journée. Et puis après, arrivé janvier, février, des choses changent. On va être dans la saison toujours sèche, mais là chaude. Et du coup, les températures vont augmenter progressivement jusqu'à arriver en avril et tu vas avoir... pour la période du Nouvel An laotien qui est en avril, on va monter à des températures de 45 degrés. Bon, là, on a super chaud.
Oh la vache. Oh, ça va te changer du coup l'air frais de l'Andalousie. Hein.
Oui, alors c'est pour ça qu'on me dit, attention, il va faire très chaud en Andalousie. On est ravis d'avoir des grosses températures. Ça va être une température effectivement plus sèche. Mais à la fois, moi, ça me fait du bien aussi de savoir que je vais avoir du frais, réellement du frais pendant les périodes de l'année, vraiment.
C'est clair. Non, écoute... Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors du coup pour la suite? On te souhaite un excellent déménagement en Espagne.
Oui, une bonne fin de séjour parce que là on a encore, on essaye au maximum d'avoir les pieds, la tête au Laos parce qu'on sait que tout ce qu'on est en train de vivre c'est un peu les dernières fois. Donc j'essaye de pas trop avoir la tête en Espagne même si c'est difficile. J'essaye d'être dans l'instant présent. Donc, nous souhaiter un bon fin de séjour ici au Laos, ce pays qui nous a accueillis vraiment à bras ouverts et là où on a passé 10 merveilleuses années, vraiment. Et puis surtout, moi, ce que je souhaite par-dessus tout, en plus de tout ce qui peut concerner mes enfants, mais au niveau professionnel, que j'arrive à développer mon activité professionnelle comme je le souhaite, réussir à trouver un équilibre entre ma famille et cette activité-là qui me tient à cœur et d'être au service comme ça des parents avec qui j'ai beaucoup de points communs et surtout à qui je peux donner beaucoup de clés en fait, que je peux sincèrement aider en fait, comme j'ai pu le faire précédemment et que je continue à le faire.
Je mettrai ton contact dans la description si ça peut permettre à des familles d'être aidées avec plaisir.
S'ils ont des questions, s'ils ont des interrogations, surtout que là, étant donné que j'ai repris mon activité, j'ai lancé la possibilité de faire des accompagnements jusqu'en décembre, je le fais gratuitement.
Oh, en plus, on a un deal.
Ouais, je fais ça gratuitement, donc parce que financièrement, on peut le faire et que je pense que c'est bien aussi, c'est donnant-donnant. Moi, ça me fait du bien à ma pratique professionnelle. Je sais que ça fait du bien aux personnes qui en ont besoin. Des fois, ça fait passer le cap.
Mais trop bien.
Ouais.
Ok. Bon, écoute, le message est passé.
Oui.
Écoute, Claire, en tout cas, je te remercie du fond du cœur pour ton témoignage.
Oui, c'est clair. Oui, merci beaucoup. Écoute... J'espère effectivement que tout va bien se passer. Je sens qu'en Europe, ça parle déjà de Noël. Hein. Je sens l'impatience. De toute façon, dès qu'on sort des grandes vacances, tout le monde se réfugie dans l'idée de Noël.
Non, bah, écoute, vraiment, merci beaucoup, Claire. Et puis, bah, écoute, je te souhaite une très bonne journée.
Oui, et bah, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois de m'avoir donné l'opportunité de partager et puis finalement de m'avoir donné l'opportunité de repenser à tout ça. Ça a été vraiment d'une grande aide. Donc,
merci. Ça fait du bien un peu de faire le bilan.
Oui, de ton écoute, vraiment, parce que tu as fait ce que je fais en général, j'écoute les autres. Et là, aujourd'hui, c'est toi qui m'as écoutée, donc je te remercie beaucoup pour ça.
Oh, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir et j'espère que ça va aider d'autres familles qui veulent s'embarquer dans l'expatriation.
Oui, j'espère aussi.
Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao !